Il est 21 h, nous sommes mardi et c'est l'heure du dojo bar. Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Méduse. Méduse, on t'entend presque pas.
Salut. Ah bon, eh ben ça commence bien, dites donc. Salut,
voilà,
Martel.
Ça commence très bien. Ah non, mais c'est pas du tout la merde. Je pense qu'on va placer définitivement cette émission sous le signe de l'amour. C'est officiel, je vois plus autre chose.
Parle-moi encore.
Dis-moi encore.
Bonsoir à tous, c'est le 5e, 4e, 12e de Jobar, on sait pas trop, on a rien à foutre. Et ce soir, nous recevons avec nous, une fois de plus pour la 43e fois, Oscar de GameSharks.fr, mais aussi du dojo. Salut Oscar.
Salut.
Voilà, et nous recevons également Frosties de Nintendo Man.
Hello.
Voilà, qui vont nous accompagner dans toute cette émission. Donc, notre premier sujet, c'est un sujet polémique, c'est un sujet qui fâche. Faut-il virer Iwata ? Parce que Iwata demande rire, certes, mais est-ce qu'Iwata est pas finalement la pire chose qui soit arrivée à Nintendo ?
Nous allons en discuter dans la première partie d'émission après le petit tour de table de l'actu. Et ensuite, après avoir viré ou conservé Iwata, on parlera d'un petit jeu eShop qui paye pas de mine mais qui déboîte quand même bien la gueule et qui s'appelle Nanoasso Neo.
Voilà, et on va commencer donc tout de suite par le tour de table de l'actualité. Alors qui veut commencer ?
Ah,
c'est
Oscar,
Franciscain qui l'en veut.
Ça va aller vite.
Oscar, il peut commencer.
Non, moi j'ai rien du
tout. Voilà. Merci Oscar pour ta contribution.
Merci.
Je vous en prie.
Tout va bien.
Moi j'avais presque rien et au final, j'aurais parlé de Shadow of the Eternal. Je sais pas trop comment ça se prononce. L'espèce de suite d'Eternal Darkness.
C'est Shadow of the Eternals.
Ouais, mais t'as un super accent quoi. Mais
ouais, non, putain, plus je gère.
C'est tout ce qui est super. Hein.
Et je fais très bien l'amour aussi.
Surtout ce soir. Du coup, c'est le seul jeu là, qui est annoncé depuis quelques temps sur Wii U, c'est un peu la dèche. Et j'ai l'impression qu'on fait que de parler de ça.
Non, il y a eu un Pac-Man là.
Ouais, voilà.
Voilà, donc c'est le seul jeu.
C'est le seul jeu, et en plus, c'est pas une exclue, c'est un truc qui est financé en crowdfunding. En gros, c'est des campagnes Kickstarter et autres. Et j'ai l'impression qu'on est tous en train de se pougner là-dessus, alors qu'au final, il sortira jamais.
Alors, je sais pas s'il sortira jamais, mais j'ai bien aimé leur démo de gameplay où on voit un mec marcher pendant 5 minutes.
Bah, j'ai l'impression qu'il y a
une caméra tournée autour aussi.
Ouais, et puis en fait.
C'est vrai.
Moi ça m'intéresse, hein. Ça m'intéresse que le Eternal Darkness, j'avais vraiment adoré. Mais j'ai un peu peur en fait de comment s'est lancé en fait le financement du jeu, quoi.
Mais c'est-à-dire surtout, enfin j'ai pas trop suivi, mais. Mais Diak, là, le mec qui est derrière ça,
ouais.
il a plus de studio quoi maintenant.
Si, c'est Precursor Games.
Ouais, enfin, c'est.
Mais pour le coup, c'est son nouveau studio quoi.
C'est un truc un peu misérable. Et,
voilà. Pour la petite histoire, Dennis Dayak donc, était le directeur technique de Silicon Knights. Mmh. Silicon Knights a fermé après To Human qui a pas tellement marché.
Ils avaient pas fait autre chose
Il était cool. Co-créateur d'ailleurs, je crois, du studio.
Il était peut-être co-fondateur du studio, c'est possible, co-créateur de quelque chose, ça c'est bien possible. Mais Dennis Dayak est plutôt un mec réglo en général. Je veux dire, c'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense et qui pense ce qu'il dit. Donc je sais pas trop quel crédit on peut accorder à Shadow of the Eternals. Moi, ce qui me saoule un petit peu, c'est d'être obligé de, moi, joueur, financer un jeu alors que c'est pas très logique quoi.
Ouais, enfin, ça c'est le débat sur Kickstarter, mais bon, au-delà de ça, moi je pense franchement que même en supposant qu'il arrive à financer son jeu, ce qui me paraît mal parti, il n'a pas la structure de Nintendo derrière, le soutien d'une grosse boîte. Je trouve ça mal barré, même pour la qualité du jeu.
Et en même temps, par rapport à Eternal Darkness, il ne va pas être obligé de le porter sur deux consoles différentes. Donc il y a peut-être quand même moyen de faire quelque chose.
Bah, il est prévu pas uniquement sur Wii U, PC aussi.
Eternal Darkness, il a commencé sur N64 très laborieusement, ouais. Il a été porté sur GameCube très laborieusement. Enfin, c'est un projet qui a quand même énormément souffert, qui a traîné en longueur et qui a bien failli jamais voir le jour.
Moi, je pense
qu'on peut
pronostiquer.
C'est un excellent jeu.
Je pense qu'on peut pronostiquer une campagne Kickstarter qui, si elle se conclut, va se conclure dans
la douleur,
à mon avis.
En fait, là, il y a deux campagnes différentes. Il y a la campagne sur leur site. Il y a eu 156 000 dollars, là. Et ils ont lancé une autre campagne, Kickstarter. Et là, il y a 31 000 dollars de récupérer. Et en fait, ils veulent pas récupérer la même somme.
C'est très mal barré, de toute façon.
Et on sait pas trop. Il y en
a 1,5 million, je crois, non?
Ouais, il y a 1,5 million sur leur site et 1,3 million sur Kickstarter.
Comme objectif, ouais.
Ouais, donc en fait, c'est deux trucs différents. Alors j'ai l'impression que ça va être pour les. Je sais pas, genre épisode 1 à 6 et l'autre épisode 6 à 12. Je sais pas trop, en fait. En plus, c'est par épisode.
Ils veulent faire ça par épisode,
de toute façon,
ils veulent en faire 12
cas. Dans les deux cas, ça va être très dur pour qu'ils atteignent leur objectif. Moi, je pronostique qu'ils vont pas réussir à le financer. Et même en supposant s'ils le financent, je pronostique que ce sera une daube.
Ah, c'est bien. Non,
mais c'est très 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 joyeux. Hein,
s'ils gardent le même gameplay qu'à Eternal Darkness, je vois pas pourquoi ce serait une daube. Après tout, ça se trouve, ça va être un copier-coller.
Ouais, je crois. Je suis pas objectif, en fait, j'avais pas aimé Eternal Darkness.
Ah,
non. Si c'est vrai.
Sors de ce bar.
Sors de ce bar. Par la fenêtre, s'il te plaît. Vas-y, Martel.
Alors, moi, j'y vais. Donc, moi, le sujet qui a retenu mon attention, c'est ce qu'on a appris il y a à peu près 2 semaines. Alors, c'est bien parce que ça s'est tombé genre 1 heure après le dojo bar de la semaine dernière.
Normal.
Où j'avais galéré pour trouver un sujet. Donc, ça fait toujours plaisir. Vous connaissez la fameuse légende urbaine, enfin, légende urbaine maintenant, c'est une légende urbaine, qui veut que la Famicom de Nintendo ait eu une couleur rouge-orangée parce que c'était le plastique le moins cher à produire.
Ouais.
Donc effectivement, moi je trouve que cette rumeur elle avait aussi une certaine crédibilité, c'est-à-dire que tu vois bien Nintendo pingre,
surtout
veut pas dépenser. Ouais, voilà, surtout Hiroshi Yamauchi, c'est-à-dire on dépense pas le moindre sou inutile, la couleur de la console on s'en fout, on met n'importe quelle couleur. En même temps, c'était aussi, alors pour défendre un petit peu quand même Hiroshi Yamauchi, c'était aussi le côté Nintendo industriel, et un industriel, ben effectivement ça doit faire des choix, ça produit des, enfin ça fabrique des produits sur des quantités gigantesques, et gagner quelques centimes sur la couleur du plastique, ça permet de gagner quelques millions à la fin de la production de la vie de la machine. Voilà. Donc il y avait quand même une logique industrielle derrière, mais il y avait aussi ce côté un petit peu, ouais, Nintendo c'est quand même des gros radins. Donc voilà, c'est une rumeur qui collait quand même bien, je trouve, à l'image de Nintendo, qui faisait un peu plaisir, et qui se disait, ouais, c'est vrai que c'est quand même vachement crédible. Et finalement, non. Alors, c'est un peu la déception. Voilà, c'est la fin d'un mythe. Non, la Famicom était rouge-orangé parce que c'est une couleur qui plaisait bien Hiroshi Yamauchi, et c'est tout, le plastique était pas particulièrement moins cher. Le designer de la Famicom voulait juste faire plaisir à son patron, donc il a fait une couleur qu'il aimait bien. C'est tout.
Il y avait pas une histoire de cravate aussi rouge?
Alors c'est
Yamauchi
pas une cravate, c'est une écharpe qu'il avait.
Ah oui, une
couleur-là.
Écharpe, voilà. J'ai suivi un petit peu le bazar de loin, mais.
Voilà, donc je trouve ça amusant parce qu'effectivement, c'est, pour moi, ça faisait partie de l'histoire de Nintendo. C'était quand même un truc un peu emblématique vraiment de quelque chose qui était symbolique à la fois de ce côté, Nintendo est avant tout un industriel, et du côté Nintendo est aussi quand même un gros radin. Qui va essayer de gratter sur tout ce qu'il peut quand il sort une machine. Et puis, on se rend compte qu'en fait, c'est pas si vrai que ça. Et que finalement, c'est peut-être sur des choses un petit peu plus cachées qu'ils ont fait des petites économies.
Le rouge, ça coûtait hyper cher, quoi.
Non, le rouge ne coûtait a priori pas hyper cher non plus. Hein, mais c'était juste, ça coûtait pas plus cher que du plastique blanc, quoi. Ou noir.
Ouais.
Et voilà, le prix devait être sensiblement le même.
Ils ont fait des économies autre part, genre la longueur du câble.
Ils ont fait
des
économies autre part, non, mais pour la Famicom, ils ont fait des économies partout, donc il n'y a pas de souci. Ouais. Mais j'aimais bien cette légende, et le fait qu'elle ne soit pas vraie, finalement, je trouve ça un petit peu bizarre, mais c'est amusant.
Sort d'où cette non-vérité, j'ai pas vu ça, en fait.
Apparemment,
c'est un ancien ingénieur ou je sais pas quoi de Nintendo qui aurait accordé quelques mots à je ne sais plus quel journal japonais, je crois.
Oui, voilà, le démenti de la rumeur, c'est ça. La rumeur d'origine, c'est pareil, c'était un développeur qui a dit que, de toute façon, si on avait choisi cette couleur-là, c'était parce que c'était la moins chère. Et puis en fait, bon, lui, il a pas des. Enfin, le mec d'origine qui avait dit ça, en réalité, il avait pas travaillé sur la machine. Alors que là, on a eu un des concepteurs de la machine qui a dit, mais non, attendez, la couleur, c'est juste la couleur de l'écharpe du patron, quoi. Voilà. Okay. Bon, c'est amusant. Ouais, moi voilà. Ça m'a fait rire.
D'ailleurs je voulais le choisir, c'est pour ça que je l'avais pas balancé sur Twitter et que du coup personne n'était au courant. Et finalement comme tu l'as choisi, j'ai choisi autre chose. Et j'ai choisi un truc marrant en fait. Il y a eu en France tout le bordel sur le mariage pour tous, mariage gay, mariage pour tes enfants, mariage pour ton hamster, tout ce que tu veux. Et curieusement c'est un petit sujet qui à la modeste échelle du jeu vidéo au Japon s'est retrouvé coincé dans le jeu Tomodachi Collection, qui est une espèce de simulateur, on va dire c'est une espèce de Sims-like quoi.
Ouais, enfin personne n'a déjà encore compris hein.
Ouais, voilà, qui était déjà sorti sur...
Si, alors je me suis penché dessus et je... Mais bon, je vais pas expliquer parce que ça prendra des heures.
Ouais.
on fera un autre topic à troll sur le sujet.
Exactement.
Si tu veux.
Et si tu t'es bien penché dessus, c'est parce qu'il s'est hyper bien vendu, n'est-ce pas?
Oui, bah déjà le premier sur DS.
Ouais, voilà.
Oui, exactement.
Était sorti
en
2009. Et ici, celui sur 3DS vient de débarquer le 18 avril. Il est actuellement 758 575 ventes, merci Oscar. Et en fait, dans ce Sims-like, les personnages peuvent se marier entre eux. Et il se trouve que, hasard du hasard, on peut former des couples homosexuels mâles seulement, pas femelles.
La loose.
Ça casse tous nos fantasmes.
Ouais, ouais, mais de toute façon, le design est simple, c'est des espèces de mille.
Oui,
donc,
mais ça
voilà,
s'empêche pas. Enfin, moi, personnellement, l'homosexualité féminine, j'ai rien contre du moment qu'elle me laisse mater, quoi.
C'est ça, quoi. Et donc, voilà, il y a des joueurs qui ont observé qu'il y avait moyen de marier entre deux personnages mâles, même de leur faire avoir des enfants.
Ah oui, quand même.
Carrément. Et du coup, il y a des joueurs qui ont reporté ça à Nintendo. Nintendo a dit oui, bon, en fait, c'est un bug. On va voir, pour patcher ça. Et donc, comme le jeu s'est hyper bien vendu, ça fait un petit peu de bruit quand même derrière. Et il y a même des gens qui ont déclaré qu'ils achèteraient pas le jeu tant que Nintendo l'aurait pas patché.
Oh,
ouais, ça c'est bon, le Japon c'est quand même un petit peu conservateur. Je pense pas qu'il laisse forcément la place ce genre de questions de société.
Tout à fait.
Carrément
l'homosexualité au Japon est un sujet relativement tabou. Il me semble, alors je pourrais dire une bêtise, je vérifierai éventuellement après l'émission, mais il me semble que le jeu Les Sims, où effectivement on pouvait, il y avait une très grande liberté en ce qui concerne les mariages, puisqu'on pouvait se marier entre personnes de sexe différent, de même sexe,
on peut se marier avec ses enfants.
Non, on peut même pas leur faire des trucs. Donc,
Merde.
Ouais, peux, non, c'est
pour ça que c'est un jeu sérieux.
C'est un simulateur sérieux. Il me semble qu'il a été censuré au Japon sur ce sujet-là.
Ouais, de toute façon, les jeux PC au Japon.
Oui, bon, les jeux PC au Japon,
ouais,
voilà,
pas les mêmes,
les Sims, c'est quand même pas rien, quoi.
Ouais, mais les Sims, c'est hyper prude à côté d'autres jeux japonais sur PC, quoi.
Ouais.
Ouais, voilà. Ouais. Et donc, deux petits détails amusants à propos de Tomodachi Collection, c'est que très vite, les gens, en fait, quand on abrège Tomodachi Collection, ça donne Tomokore. Donc, c'est un hashtag qui était utilisé fortement sur. Utilisé fortement sur Twitter à la sortie du jeu.
Un mot dièse.
Mot dièse, ouais.
Ouais, mais non, mais mot-clé, quoi, tout simplement.
Un dièse mot. Le dièse est avant.
Un croisillon.
Un croisillon.
Et donc, de Tomokore, le hashtag est devenu Homokore. Ça, c'était pas mal aussi. Alors, le truc vraiment qui dépasse tout, c'est Nintendo qui, dans son patch note, a indiqué, parce qu'il y avait d'autres bugs qui étaient corrigés. Il y avait, notamment, impossibilité de sauvegarder à certains moments. Donc, je comprends que la 3DS soit pas très gay-friendly. Alors, il y avait le truc pour corriger le mariage entre mecs dans le jeu. C'était, correction des relations humaines qui deviennent bizarres.
Putain, le
truc. C'est pas plutôt qu'ils deviennent amusantes.
Non, qui deviennent bizarres.
J'avais cru voir amusantes.
C'est bizarre le mot qui est employé. Voilà, c'est la traduction du mot. Voilà, j'ai trouvé que
c'est bref, bon, ça.
Non, on pourrait peut-être leur envoyer quelques manifestants de chez nous, qu'ils soient pro ou anti. On pourrait leur envoyer. On pourrait leur envoyer le bataillon FN-UMP, leur envoyer le bataillon Frigide Bardot et le bataillon PS. Et ce serait peut-être un bon moyen de rentrer du pognon. Sur loup, les manifestants, on pourrait peut-être rentrer un petit peu de pognon en France pour adresser la crise. Ça ferait plaisir à Montebourg, non?
Non, puis ça, c'est un truc que la France peut exporter, ça, ces manifestants. Je pense que ça fait partie des ressources naturelles du pays.
On a un créneau de jauge,
je crois. Faudrait laisser le bug et sortir une 3DS arc-en-ciel.
Alors,
sûr que ça se vend.
Figure-toi que les gens qui veulent continuer à jouer en mode mariage gay sur Tomodachi Collection ont la possibilité de ne pas patcher le jeu, évidemment.
Mais c'est quand même bizarre qu'ils n'ont pas testé ce truc-là. Enfin, si c'est un jeu justement de.
Bah, c'est un petit peu énorme, quoi. Donc, soit c'est un petit plaisantin dans la dev team et puis les testeurs ont rien vu, ou alors
on collaborait de manière très complexe, très étroite,
ou alors les mecs ils n'ont rien vu quoi.
Alors les mecs ils ont rien vu, hein. Tu sais, c'est pas la première fois qu'un jeu est pas testé en sortant.
Le bug ouais, est un peu compliqué parce que je crois que ça vient d'une histoire de transfert de sauvegarde.
Ah ouais, si tu le fais pas comme ça.
Oui,
quoi.
C'est juste. Ouais, voilà, c'est juste.
D'accord.
Bon, après, dans le détail, messieurs, après bon, ces riches moments.
Il y a personne qui a une canette à décapsuler parce que moi j'en ai pas, ça me fait mal au cœur. J'ai une boîte d'artichaut.
Ah, j'ai rien.
Si tu veux, j'ai une boîte de haricots.
Bon, en tout cas, moi la conserve d'artichaut elle a pas fait de bruit là. Non.
Ah, c'est un peu décevant, ouais. Alors, si tu veux, j'ai une tasse de thé.
C'est pas terrible. Pas trop de bruit. Bon, c'est le moment d'une pause musicale.
C'est le moment d'une pause musicale.
Qu'est-ce qu'on écoute donc... Qu'est-ce qu'on écoute pas
Tu vas arrêter tes bêtises, oui. Ils sont beaux, les artichauts. C'est pas possible, putain. On peut pas animer une émission sérieusement ici. Moi, je me barre. Voilà, c'est bon. Donc on va écouter un petit morceau de musique, un morceau relativement peu connu d'un jeu relativement peu connu. Le jeu, c'est Silver Surfer sur NES. Alors, ce jeu est une vraie bouse. Je vous déconseille absolument d'y jouer. Néanmoins, la musique a été composée par un très grand monsieur de la musique électronique qui s'appelle Tim Follin, qui a pris sa retraite il y a déjà quelques années. Écoutez le morceau, essayez de vous imaginer que ça sort d'une NES, et vous allez voir, c'est quand même relativement impressionnant. Voilà, on se retrouve dans un tout petit peu plus de 3 minutes, à tout à l'heure. Voilà, nous sommes de retour. J'espère Putain, c'est parti. Non, sans déconner, je me casse. Le prochain qui fait ça, je me tire. Ah ouais, plus personne n'ose, là. Hein.
Voilà. Bah oui, là, ça nous a calmé, quand même.
Ah ouais, non, mais attendez, c'est mon autorité naturelle.
Auto. Natu. Je fais sur les deux premières syllabes, maintenant. Regardez-moi aux trois syllabes.
Bon, on peut reprendre notre sérieux. Alors, messieurs, je vais vous poser la question très franchement. Faut-il virer Iwata ? Est-ce qu'il fait baisser les résultats de Nintendo ? Est-ce que sa nouvelle méthode de com pue ? Est-ce qu'il est complètement ridicule avec ses bananes ? C'est vrai que moi, quand on me dit banane, maintenant, je vois Iwata fixer une banane un peu luxe.
Carrément.
C'est horrible.
Fini Donkey Kong.
Voilà, donc est-ce qu'il est si mauvais que ça ? D'abord, d'un point de vue com, est-ce que vous trouvez que globalement...
D'un point de vue com, les Japonais sont nuls.
Oui, d'un point de vue comme les Japonais sont nuls, d'accord. Enfin, lui, de base, particulièrement gratiné, non ?
Pas faux, ça.
Moi, je suis pas d'accord. Je le trouve assez génial d'un point de vue comme.
Non, mais attends, tu le trouves génial dans le sens t'as envie de te foutre de sa gueule ou tu le trouves génial dans le sens il fait bien passer le message ?
Alors, non. Alors, c'est pas ça. C'est je le trouve génial dans le sens ça me fait marrer, je me fous de sa gueule. Et aussi dans le sens avec ses Iwata demandes qui sont quand même vachement intéressants. Je trouve ça intéressant.
Mais je pense que de toute façon tout le monde sera d'accord pour dire que les Iwata demandes sont quand même, en dehors du gimmick rire qui est un peu lourd à la longue.
Ouais, mais moi ça va, je trouve.
Ça va, tu l'aimes pas, tu veux les radis, tu veux pas non plus te taper une pouliette.
Mais j'ai perdu mon briquet.
Mais c'est pas le problème quoi. C'est un bar non fumeur, monsieur.
Bref, on va avoir des emmerdes.
Je pense que les Iwata demandes, on est quand même tous d'accord pour dire que c'est vrai que c'est quand même assez génial.
C'est cool.
C'est quand même super cool. Enfin, personnellement, c'est vrai que on en apprend toujours quelque chose. Il y a toujours des choses intéressantes. Alors, il y a des fois, ça donne un peu envie de on rit un petit peu jaune. On rire jaune. Je sais pas. J'avais entendu les développeurs de Resident Evil dire que la marque de fabrique de la série, c'était le bioréalisme. J'avais un petit peu envie de... J'étais un peu en train de saigner du nez, quoi. Mais bon, en même temps, c'est vrai que c'est toujours intéressant. Il a toujours des bons invités. Ils arrivent à animer le truc. Enfin, effectivement, les Iwata demandent. Je pense qu'on peut dire que c'est une grande réussite. Maintenant, est-ce que les Nintendo Direct, c'est pas un petit peu trop clownerie à deux balles, quoi ?
Mais ils essaient de faire des blagues, j'ai l'impression, moi, dans les Nintendo Direct. Hein.
Bah, ils essayent, ouais,
enfin,
putain.
Ils essayent, ah, ouais, justement, ouais, c'est pas drôle, mais c'est le truc, c'est
si, leur petite casquette. Je trouve que c'est un côté pas drôle qui est drôle au final.
Même c'est quand ils dévoilent la Wii U, c'est enfin l'unboxing là. C'est une blague, ce machin, c'est pas possible, quoi. Il a pas voulu faire ça sérieusement.
Ou alors, si il a fait ça, non, si ça se trouve, tout le monde autour de lui se fout de sa gueule et lui il y croit.
Ouais, mais c'est lui le chef en même temps.
Je sais pas quel est le but, mais effectivement, je trouve ça marrant l'autre qui fait un unboxing. Enfin, c'est comme les Daft Punk qui font un unboxing, quoi. C'est à la oui. fois ridicule et je sais pas. C'est...
Ou alors, c'est des coups de com', peut-être hein, aussi. Hein.
C'est, non, de toute façon, c'est un coup de com'. Les Nintendo Direct, c'est d'accord.
Mine de rien, l'unboxing, il était repris partout après. Donc. Même si c'est négatif, c'est quand même positif de toute façon, ce genre de coup de com'. Mais c'est quand même bizarre comme truc. Après,
ouais,
c'est peut-être typiquement japonais, ils ont peut-être des émissions comme ça chez eux, je sais pas.
Non, mais la télé japonaise, de toute façon, c'est du what the fuck permanent. Hein.
Oh putain, il était là. J'ai retrouvé mon briquet.
Génial.
Alors, ouais,
comme
non,
le dojo
mais...
noir, c'est du what the fuck permanent.
Non, mais c'est un meilleur exemple, c'est le Luigi, le Nintendo Direct Luigi, là. Avec la scène où il y a Miyamoto qui passe en aspirant avec le truc de Luigi là, c'est assez pitoyable, mais au final c'est marrant parce que c'est Miyamoto et Iwata, quoi. C'est
ouais, voilà, ce serait des employés lambda, bon, ce serait pas très.
Ouais, voilà, mais...
voilà. Ça c'est les personnages.
Ça serait vendu comme un vrai sketch, ce serait pitoyable, enfin ouais. Vraiment, enfin c'est pitoyable en l'occurrence, mais justement, je trouve ça amusant parce que voilà, les mecs se tournent en dérision et c'est plutôt sympathique qu'ils se tournent en dérision, quoi.
C'est d'ailleurs mieux que des présentations de Wii Sport, quoi. En même
ouais.
temps.
Voilà. Ouais.
Limite, d'ailleurs, à quel moment est-ce qu'ils ont commencé à se tourner en dérision comme ça? Parce que bon, on a peut-être rien vu venir vu que c'est progressif et vu que ça devient un petit peu du running gag, on s'entend forcément à chaque fois une nouvelle blague. Mais
je pense que là où ça a vraiment commencé, c'était
la banane.
Le coup de la banane, ouais.
C'était énorme, la banane.
Voilà, ça a été le début de ces conneries à Iwata. Et puis, ah ouais, non, mais c'est marrant, quoi.
Bah, c'était déjà avant, non? C'était non. Quand la banane?
Alors si, moi je dirais qu'en fait la vraie origine ça date de l'E3 avec la vidéo avec de Miyamoto, Iwata
de Bowser
et
qui,
voilà, et de Bowser.
Voilà, voilà.
Ah oui, ouais.
C'est ouais, minimum ouais. de là.
Oui, ouais, c'est vrai que ça date plutôt de là, ouais.
Mais je veux dire, c'est tellement arrivé progressivement que je pense que maintenant on a ça ancré dans l'imagerie de communication Nintendo et on fait plus gaffe, je crois.
Mais après, enfin, je sais pas si c'est tant voulu que ça, mais c'est vrai que Iwata, on se fout un peu de sa gueule depuis les débuts de ses apparitions publiques avec son espèce d'accent foireux, de ouais. enfin ses fringues, sa gestuelle, tout ça qui fait un peu je sais pas, gay coincé. mais amusant, quoi. Enfin,
ouais, c'est ça.
Today
you will experience some new hardware.
C'est plutôt l'accent de Mario, je dirais, mais bon.
Ouais, non, mais attends, il a quand même un meilleur accent anglais que les précédents, hein, c'est pas...
Oui, il s'améliore. Ouais,
oui, surtout, heureusement qu'il s'améliore.
Ouais, heureusement.
Et en plus, je crois que, comme ça, enfin, Miyamoto aussi, il a pas à parler comme ça, pas trop du moins, et je crois que Miyamoto, ça l'emmerde de parler anglais, en fait.
Il ne savait pas parler anglais.
Quasi plus. Je crois qu'il il a bredouillé quelques mots pendant certains E3.
Ouais, pendant certaines conférences d'E3, voilà, en fait, il commence par dire genre hello everybody, everybody hello, un truc comme ça, et puis après il parle en japonais de toute façon, donc il sait dire quelques mots d'anglais, mais je crois qu'il l'avait dit lui-même dans une interview qu'il était pas du tout à l'aise en anglais et qu'il fallait qu'il s'améliore.
Comme tous les japonais en même temps.
Comme beaucoup de japonais. Pas tous, puisque tu vois Iwata par exemple, il parle un anglais qui est certes.
Bah, parce que c'est le patron, il est obligé quand même.
Puis l'intérêt est même, pour diriger après Nintendo America, quand même parler anglais minimum quand même.
Oui, aussi, ouais.
Je pense globalement qu'il y a des gens au siège de Nintendo of America qui parlent japonais depuis relativement longtemps.
Ah oui, c'est
ça. Donc, quand t'es la succursale d'une boîte japonaise, t'as tendance à parler japonais. Comme les succursales des boîtes chinoises ont tendance à parler mandarin. Il y a toujours un ou deux mecs qui parlent très bien mandarin.
Ouais, voilà quoi. À quel moment est-ce qu'il est arrivé chez Nintendo, Iwata? Puisqu'avant il était chez
GameCube.
AHL.
Depuis la GameCube,
un peu avant la GameCube en 2000. C'est 2000, mais il n'était pas patron à ce moment-là. Il avait un haut poste et il est devenu patron en 2002, je crois.
Il était responsable de l'approvisionnement au PQ.
Voilà, poste très important.
Ouais,
responsabilité capitale.
Chef de la division de planification.
Ouais,
voilà, comme ça.
Voilà, en fait, il faisait les plannings, quoi.
C'est une bonne question.
Parce que le mec, il a quand même, je veux dire, maintenant, c'est le big boss, mais il a quand même à la base un passif de développeur, quoi. C'est quand même assez. Je sais pas si c'est courant dans l'industrie.
C'est très peu courant, c'est super. Je crois franchement que, à part.
Balanced Fight, Earthbound et Kirby.
Il a
bossé sur ces trucs-là, quoi.
Voilà, exactement. Et à part lui, je crois que le seul autre cas dans l'industrie du jeu vidéo, le seul autre patron d'une entreprise de jeux vidéo à être un ancien développeur, ou encore un développeur, c'est Newell de Valve.
Ouais.
Alors, il y a Newell de Valve qui est encore en activité, mais avant, il y en avait quand même d'autres. Il me semble.
Oui, avant, mais aujourd'hui.
Que les fondateurs d'Ubisoft étaient aussi des développeurs à la base.
Les
frères Guillemot, il me semble que c'était des développeurs.
Je pense aussi, mais pas développeurs de jeux en tout cas à la base. Enfin, je veux dire, ils ont arrêté le développement avant que le jeu vidéo n'arrive.
Pourtant, le délire de producteur exécutif qui est cité dans les crédits de chaque jeu, mais qui au final ne touche jamais au jeu.
Non, mais producteur exécutif, c'est ça, c'est planification. En fait, il arrive dans le.
C'est le grand patron, le producteur exécutif.
Il arrive dans le truc, il regarde si ça se passe bien, ça se passe bien.
Mais effectivement, quand on regarde les autres sociétés, tu regardes Activision, Electronic Arts, tout ça, tous les patrons, c'est des mecs qui viennent.
Des financiers, quoi.
Voilà, c'est des financiers, quoi.
Oui, mais comme dans pratiquement, je veux dire, aujourd'hui, t'as plus beaucoup d'industries où c'est des gens qui font. Enfin, où les gens qui font, sont à la base du truc, finissent par diriger la boîte.
C'est pour ça que
aujourd'hui, t'as les financiers.
Voilà,
les 50 employés les plus hauts dans l'échelle chez quasiment toutes les grosses boîtes du monde, c'est les financiers.
Il n'y avait pas Kutaragi qui faisait des devs ? Je sais plus. Plus qu'il faisait, par des blagues.
Non.
Ouais, des blagues. Franchement, j'aurais kiffé qu'il y ait un Kutaragi demande et qu'il y ait le Sony Direct. Franchement, ça m'aurait fait triper, quoi.
Bah, il l'aurait fait, hein. Ça, c'est évident.
Ouais.
Ouais, mais est-ce qu'il l'aurait fait en mode aussi gaisou ridicule que.
Je crois qu'il l'aurait fait encore pire.
Ah non, il était ingénieur et homme d'affaires.
C'est la connerie jusqu'au bout.
Merci Wikipédia.
Voilà. Merci Wikipédia.
Non, mais voilà, c'est comme Régis. Régis, c'est un mec qui vient de
Pizza Hut.
Ouais, Pizza Hut, voilà. Ouais. Pizza Hut et Guinness, je crois.
Mais ça se voit un peu. Maintenant que tu le dis, je me dis de la pizza et de la bière, ouais, c'est vrai.
Voilà,
c'est
normal.
Il a gardé le gabarit, ouais.
Normal.
Voilà, ouais, je peux vous annoncer tout de suite, sa prochaine boîte, c'est manager chez McDonald's. Il a de l'avenir.
Bon, en revenir à Tonton, ça te roule. Il est arrivé quand même. Waouh, c'est la famille, tout ça.
Tonton, ça te roule.
Ouais, c'est la famille. Bon, quand même, le mec, il vient, enfin, je dirais, il débarque après Yamauchi, c'est quand même un.
Ah bah faut poser
c'est même plus le jour et la nuit, c'est Mars et Pluton, quoi.
Ouais, faut poser les couilles sur la table. Ouais,
après, faut bien dire que c'est Yamauchi qui l'a choisi. C'est comme ça qu'il est arrivé là. Il a été désigné par Yamauchi. Donc il a déjà de base la confiance de.
Mais est-ce qu'il a vraiment fait du mal pour Nintendo, quoi, Iwata, au final? Parce que là, la Wii U se vend pas bien, ok, mais derrière, il y a quand même la Wii. La GameCube, c'était une super console, même si ça s'est pas bien vendu. Mais la Wii et la DS, voilà quoi. Enfin,
voilà, on rentre dans le sujet, effectivement.
Il n'y a aucun souci.
Surtout que la GameCube, c'est pas vraiment son bébé, parce qu'il est arrivé quand même au moment où.
Il est arrivé quand elle est en cours de route.
Voilà, exactement. Et c'est vrai premier bébé chez Nintendo, c'est quand même la DS et la Wii, et ça a été les deux plus gros succès de l'histoire de Nintendo, quoi. Donc faut pas lui retirer ça non plus.
Voilà, là ça déconne, et encore la 3DS se vend très bien. Elle cartonne bien. Je sais plus si elle est sur le même rythme que la DS, je sais plus trop.
Maintenant elle n'est plus sur le même rythme que la DS. Elle marche très bien au Japon, même si elle se vend moins bien que la DS sur la même époque. Mais de toute façon, faut pas trop la comparer avec la DS, parce que faut pas oublier que la DS c'est un succès.
C'était la nouveauté.
C'est un succès monumental, quoi. C'est la console de tous les records.
La DS c'est un truc interstellaire. Hein. Ça sort de nulle part.
Même si la 3DS n'arrive pas à faire un score similaire à la DS, ça, c'est pas pour ça que ce sera considéré comme un beat, quoi. Mais maintenant, au Japon, là, elle marche très bien, mais en Occident, c'est pas la joie non plus, la 3DS. Bah,
en même temps, en Occident, c'est pas la joie non plus pour la principale concurrente du moment.
Voilà, on va pas la comparer avec la Vita.
Oui, non, mais moi, vous voulez faire des comparaisons, on fait des comparaisons. Je veux dire, même la PSP qui. Enfin, c'est marrant parce que la PSP, ça c'est quand même pas.
La PSP, elle a fait 70 millions de ventes, non? Un truc comme ça?
80 millions.
Ouais, bah voilà, 80. Mais c'est quand même pas mal.
Non, c'est énorme, la PSP, elle a cartonné.
On se demande comment.
Moi, je veux bien faire des beats comme ça tous les jours. Hein.
Enfin, oui, non, mais évidemment, moi aussi, je veux bien faire des beats comme ça tous les jours, il est marrant, lui.
ballon.
Moi aussi, l'idée des 80 millions, ça me plaît. Enfin, tu, quand tu regardes ce qu'avait prévu Sony au départ, alors après, tu vas me dire, c'est Kutaragi, quoi. Quand ce qui avait été prévu par rapport au résultat, c'est quand même un petit peu une déception. C'est-à-dire qu'eux, ils pensaient vraiment vendre la PlayStation portable au sens PlayStation du terme. C'est-à-dire qu'ils pensaient en vendre 100, 110, 120 millions. Au final, c'est, 80,
t'as
c'est
des
honorable.
Des déclarations chiffrées comme ça
Il me semble
qu'il
y en avait
Je suis pas sûr, parce qu'après, ils ont toujours, il y a toujours eu le côté un peu voilà, communiqué de presse, machin. On va faire un succès énorme et tout.
On a c'est nous les plus forts, c'est nous les plus méchants,
C'est pas si loin. La PlayStation, la première PlayStation, c'est 100 millions. Hein. C'est pas non plus.
Attends, c'est déjà pas mal 100 millions. Moi j'aimerais faire des bides à 100 millions
évidemment.
Tous les jours.
Non, mais voilà, non, mais
ah bah moi aussi, évidemment.
Ce que je veux dire, c'est que l'écart entre la PS2 et la première PlayStation, il est pas énorme non plus. Et
Bah 20%. Il m'excusera, ça fait quand même une petite. Ça commence à faire quoi.
Bah ouais, mais enfin voilà, le précédent cas de console non Nintendo portable, c'est la Game Gear, c'était nettement moins quoi.
La Game Gear, ouais, mais enfin, oui, en face t'avais aussi un autre mastodonte de l'industrie vidéoludique qui a marqué plusieurs générations de joueurs, ça s'appelle la Game Boy.
Sinon, là en face t'avais la DS qui a nettement mieux marché que la Game Boy.
Sinon, ça vous fait pas trop chier qu'on s'éloigne du sujet là, ça va?
Non, c'est bon. Moi, ça
parce que les artichauts ils sont bons aussi.
J'assume. En même temps, qui sait qui bouffe en même temps pendant l'émission, hein?
Moi.
Bref. Donc Iwata, est-ce que vous pensez que c'est un homosexuel refoulé du coup? Parce que c'est quand même.
Bah écoute, vu la taille de la banane, je dirais que oui.
Ça cache un truc, ouais.
Forcément.
Non, mais pour revenir un peu plus dans le sujet, en fait la question c'est surtout si on vient est-ce que quelqu'un d'autre que Iwata pourrait améliorer les choses.
Alors qu'est-ce que t'entends par améliorer les choses? Parce que si on essaie de faire le bilan d'Iwata, c'est bon, la DS, la Wii, tout ça, ça c'est quand même plutôt bien marché.
Bah, c'est un super bilan.
C'est un bilan qui est quand même assez exceptionnel.
C'est phénoménal.
Est-ce que de toute façon.
Mais de toute façon, faut pas non plus rester dans le bilan des anciens trucs, parce que la question c'est maintenant, c'est la 3DS, la Wii.
Oui, la question c'est maintenant, je suis d'accord, mais. Est-ce que quand t'as connu un succès aussi fulgurant et phénoménal que celui-là, t'es capable de renouveler en faisant aussi bien, sachant que là, c'est que la DS c'est effectivement la console de tous les records. La Wii c'est, on va dire, je crois que pendant un moment ça faisait partie des 3 ou 4 objets les plus vendus en France ou un truc comme ça. Enfin, c'était assez délirant. Il y a eu une période comme ça où tout le monde, voilà, tout le monde pour Noël, les gamins ils voulaient un scooter, un iPad et une Wii quoi.
Ouais, non mais peu importe, je te dis, faut plutôt parler de la Wii U qui elle ne marche pas du tout, et de la 3DS qui a du mal en Occident, et c'est là que se pose la question, et en même temps, je pense que de toute façon, si, supposons que Iwata se fasse virer, et par les actionnaires et qu'ils mettent quelqu'un d'autre à la place, s'ils mettent quelqu'un d'autre à la place, la logique voudrait qu'ils mettent quelqu'un qui fasse une politique opposée à celle d'Iwata, à savoir se lancer, ce que demandent pas mal d'actionnaires depuis un moment, se lancer dans le marché des jeux iPhone et iPad et Android.
De devenir un éditeur tiers en fait. Enfin, éditeur tiers.
Un éditeur de jeux casu.
Alors, il y a plusieurs graduations, parce qu'ils peuvent. Enfin, c'est aussi une possibilité qu'ils fassent des jeux sur iPhone, iPad, tout en continuant à faire les consoles et des jeux. Mais enfin, effectivement, ouais, la question se pose plus à ce niveau-là. Après, ce sera pas forcément ça. Hein. Ils peuvent aussi mettre quelqu'un qui voudra pas faire ça. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'actionnaires, beaucoup d'analystes qui demandent ça. Et c'est un truc sur lequel Iwata est fermement opposé, et c'est ce qu'il caractérise le plus actuellement.
En même temps, c'est un peu le fond de commerce de Nintendo depuis 30 ans. Je veux dire, tu changes pas complètement radicalement de politique du jour au lendemain.
Ouais, voilà, tu vends pas de percolateur.
Tu vas me dire, Sega l'a fait, mais bon, Sega c'était quand même dans une autre situation.
Ah, mais Sega n'avait déjà plus de console quoi, quand ils ont commencé à développer autre part. Hein. Enfin, c'était vraiment la fin, quoi.
Non, mais faut pas les comparer avec Sega. C'est clair qu'ils sont
dans le même cas
que Sega.
Elle a 6 mois, quoi.
Ouais, voilà. Non. De toute façon, alors déjà, faut revenir sur un point clair, c'est que Nintendo n'est absolument pas en danger parce qu'ils ont des réserves d'argent colossales. Ils même s'ils arrivent jamais à faire décoller la Wii U, ils peuvent continuer à vivre sans trop de problèmes.
Oui, je crois que c'est ce que disait Hiroshi Yamauchi. Ils peuvent genre lancer 3 ou 4 consoles, se planter, et ils auront encore les moyens de, continuer, ou quasiment quoi.
Après, ce qui est clair, c'est que, enfin voilà, ils ont quand même des actionnaires derrière. Leur objectif, c'est de gagner un maximum d'argent. Donc, leur objectif, c'est aussi de faire les bons choix stratégiques pour que ça marche.
Attends, tu veux dire que c'est pas une association à but non lucratif?
Non mais voilà. Non,
je me casse d'ici moi.
C'est qu'il n'est pas question de danger de la société comme c'était le cas avec Sega qui a été obligé de faire des choix pour sauver un peu les meubles quoi. C'est plus une question de choix stratégiques pour gagner un maximum d'argent, ce qui n'est pas le cas actuellement.
Voilà. Alors pour la petite histoire, moi je connais quelqu'un qui a travaillé avec Sega en France, qui a travaillé pour un petit studio qui faisait des portages Dreamcast. C'est notamment le studio qui a aidé à porter Quake 3 sur Dreamcast. Donc j'ai croisé un mec qui avait bossé avec eux et sincèrement quand il te décrit ce qui se passait dans ce studio, je me souviens plus du nom, hein, je suis désolé, j'ai vraiment plus le nom en tête. Quand il te décrit ce qui se passait dans ce truc là, tu comprends pourquoi Sega a fait faillite. Enfin, sincèrement, voilà, il te décrit du grand n'importe quoi ou voilà, où ils dépensaient du pognon à tort et à travers sans jamais réfléchir. Enfin voilà, tu sentais que...
Bah, ils pensaient juste qu'ils allaient jamais mourir. Enfin,
ils pensaient juste qu'ils allaient jamais mourir, ils se croyaient immortels. Quoi.
Alors que Nintendo s'en rend compte. Enfin, qu'ils ont un problème avec la Wii U et ils essaient de faire, faire face. Quoi,
alors, en même temps, ils ont un problème. Ils ont un problème, la console vient de sortir il y a 6 mois, il n'y a pas encore de jeu, et ils décident qu'ils vont balancer les jeux seulement à partir de la rentrée. Donc bon, elle a un rythme de lancement qui... Voilà.
Même erreur que sur la 3DS. Mou, mais...
Et ce qui est d'autant plus intéressant que quand ils ont fait l'erreur sur 3DS, Iwata avait clairement dit c'était une erreur, on n'avait pas assez de jeux forts pour le lancement, on ne fera pas la même connerie sur Wii U. Et au final,
c'est la même connerie. Voilà. Mais en même temps, tu avais le côté, on laisse de la place aux développeurs tiers, on évite de vampiriser la console.
C'est pas tant ça, je pense surtout qu'il comptait beaucoup plus sur... quand il disait ça, Iwata, c'était plutôt... on aura un Mario au lancement de la Wii U, quoi. Et il comptait beaucoup plus sur le potentiel de New Super Mario Bros. U, qui au final n'a pas du tout fait vendre de console. Enfin, pas si, quand même, forcément, mais pas autant qu'il pouvait l'espérer.
Mais voilà, c'est pas... Sur un parc... Enfin, je me mets à la place du consommateur lambda. Sur un parc de Wii bien installé, tu sors un New Super Mario Bros. Wii, c'est évident que tu vas le vendre. S'il faut vendre une console avec un jeu comme ça, ça me paraît beaucoup plus difficile.
Mais voilà, c'est ça la question. Eux, ils pensaient vendre des consoles avec ce jeu-là. Ce qui n'ont pas réussi.
Ouais.
Et ça a été ça le gros problème. Après, puis le fait qu'il n'y avait rien qui suivait derrière, c'est désertique là depuis la sortie.
Mais si, il y a Lego City Undercover quand même.
Oui, bon.
Ouais, enfin, même ça, tout le monde attend GTA 5, quoi. Le mec qui veut un GTA Like, il attend GTA 5, quand même.
Non, mais on attend Pikmin avant déjà.
Même sans parler des jeux tiers, je parle uniquement des jeux Nintendo.
C'est le désert.
Il va y avoir des trucs qui
Et puis il y a l'effet Nintendo Land aussi qui ne marche pas du tout.
C'est bien dommage.
Parce que moi, il fonctionne quand je le mets dans ma console.
Alors, l'effet Nintendo Land, c'est quand même bien dommage parce que je peux te garantir qu'aujourd'hui, quand moi j'ai des amis qui viennent à la maison,
quand t'as des amis,
balle.
T'as des potes qui viennent à la maison.
J'ai pas d'amis.
Potes qui viennent à la maison, je suis désolé, tu mets un Nintendo Land, tout le monde se marre pendant une heure et demie. Moi, j'en connais 2-3 qui se sont dit putain, on va peut-être l'acheter finalement, tu vois.
Ouais, mais justement.
Voilà.
Attends, je t'arrête tout de suite. Je suis d'accord avec toi. Moi, c'est pareil. Seulement. Ça fait un moins bon effet que Wii Sport.
C'est moins visuel que.
C'est que malgré tout, le Nintendo Land est moins accessible à des non-joueurs. Wii Sport, c'était vraiment un truc. Enfin, moi, je pouvais faire tester n'importe qui à Wii Sport et jouer avec n'importe qui, et il n'y avait rien besoin de leur expliquer. Nintendo Land, quand tu joues à un des excellents jeux asymétriques, tu passes 20 minutes à leur expliquer les règles. Tu vois ce que je veux dire?
À ce point-là,
t'exagères.
C'est ce qu'on avait déjà dit il y a deux émissions en arrière. Oui, Nintendo Land, de la bombe, mais un petit peu moins évident.
Il y a aussi un problème de budget. Les gens qui n'ont jamais acheté de console, ils ont acheté genre la Wii avec Wii Sport. Ils y ont joué pendant 6 mois et puis basta. Maintenant, elles sont toutes dans les cartons. Les mecs, ils vont pas racheter une console à je sais pas comment aller, la Wii U, à 300€.
Maintenant, elle est pas dans les cartons, elle est sur les brocantes.
Mais bon, la situation.
Il y a peut-être ça aussi. Hein.
C'est vrai. Puis la situation ouais, actuelle ouais, est différente aussi. Ça, ouais. C'est un petit peu plus la crise qu'il y a 5 ans, grosso modo, quoi.
Ouais, non, non, mais bon, ouais, même
c'est pas le même investissement.
Et effectivement, la console est quand même beaucoup plus chère. Et puis,
mais alors, qu'est-ce qu'Iwata peut faire? Non, voilà. Qu'est-ce qu'Iwata peut y faire? Est-ce que finalement, un programme ambassadeur Wii U, comme il y a eu un programme ambassadeur 3DS, ça peut relancer la machine?
Il y en aura un, forcément. Il va y en avoir un. Tu crois que lui, en tant que patron sur une console sur laquelle
il perd de l'argent, qu'il va dire aux actionnaires, bah maintenant on va perdre encore plus de pognon pour essayer de la sauver.
Voilà.
Ce qui est hyper simple, non mais ils vont donner des jeux Virtual Console, enfin des jeux Super NES ou NES, ils savent rien.
Qu'est-ce qu'on
a
à foutre.
Mais ça n'a rien à leur
centimes. Il les donne déjà, il les donne 30 centimes.
Peu importe qu'ils donnent des trucs, la question c'est est-ce qu'ils vont baisser le prix de la console?
Pour moi ils devraient le baisser, parce que c'est
trop cher. Le problème c'est que...
Ou la mettre en pack.
C'est aussi la différence, la Wii était une console où il gagnait beaucoup d'argent. La Wii U, elle est vendue à perte malgré tout.
Oui, carrément. Ouais.
Donc ils ont une marge de manœuvre qui est beaucoup moins évidente. Et c'est là aussi le problème de cette console. Mais bon, de toute façon, là on part un peu trop dans le.
Ouais, ils vont pas se positionner, je pense, avant d'avoir plus de détails sur le lancement des concurrents, quoi.
Il y a ça, et puis il faut qu'ils lancent un Mario Kart aussi pour voir si ça marche.
Arriver, hein.
Pour moi, c'est ça qui va cartonner.
Mario Kart du novembre. Je vote.
Voilà. Ça va être ça.
Je pronostique.
De toute façon, on a déjà vu que Nintendo était capable de mettre un gros coup de fouet quand il s'agissait de sortir un jeu, parce que c'est évident qu'ils vont rebondir. Maintenant, je suis pas sûr que. Enfin, je sais pas. Je suis pas sûr qu'Iwata soit pour grand chose. C'est plus. Moi, j'ai l'impression que c'est plus aujourd'hui, en ce moment, j'ai l'impression que c'est plus Nintendo of America qui pousse. Que Nintendo of Japan qui essaye de faire des trucs.
Non, Nintendo of Japan, c'est eux qui décident. Faut pas essayer de réfugier Iwata là-dedans. C'est quand même lui qui décide tout. C'est lui qui est forcément responsable, quoi. S'il y a un problème, c'est de sa faute. Nintendo of America, eux, le contrôle qu'ils ont, c'est sur le marketing, c'est sur la communication en Amérique.
Ils ont bien foiré aussi.
Et oui, ils ont bien foiré. Et je pense que c'est pour ça que Iwata prend le contrôle de Nintendo of America, parce que Nintendo au Japon gère beaucoup mieux ces choses-là. Maintenant, c'est un problème annexe, quoi. Les vraies erreurs de la Wii U, elles viennent des décisions prises en interne par l'équipe dirigeante qui est contrôlée par Iwata. Donc il est forcément responsable des difficultés de Nintendo actuellement.
Puis même le hardware aussi, apparemment il y a des moteurs 3D qui ne marchent pas, enfin genre le Frostbite Engine qui ne.
Ouais,
qui
mais décolle. Ça c'est parce qu'Electronic Arts n'a pas de volonté, sinon il pourrait le porter.
Oui,
s'il le porte à 360 et PS3, ils peuvent le porter sur Wii.
Ils pourraient le faire, mais si déjà eux ils ont, je sais pas, une 12-15 titres en dev avec ce moteur-là, on les aura pas. Donc,
c'est
forcément...
pas grave, c'est Electronic Arts. On paye la CSX, c'est tout, quoi.
Ouais, voilà. Je sais que c'est pas grave.
Nous, on s'en fout, mais c'est vrai que pour les ventes, après, bon, voilà. C'est peut-être avoir
je rappelle quand même le...
Superier, Activision, Tech2, oui. Si Ubisoft, ils nous disent on a un moteur 3D qui poutre et qu'on peut pas le porter sur Wii U, on est bien dans la merde.
C'est vraiment, ils veulent pas le porter, c'est pas ils peuvent pas le porter, faut arrêter de dégonner, parce que je rappelle que le moteur physique AVOC, il a été porté sur PS2, donc ça va, PS2 c'est quand même pas le foudre de guerre.
Ouais, voilà.
Oui, non, mais d'accord, mais c'était à l'époque où c'était tout nouveau.
Ouais.
Bref, donc Iwata, pour ou contre, on le vire, on le garde?
On le garde.
Moi je dis qu'on le garde pour le moment. Ouais, on le garde.
Ah oui.
Alors, on le garde. Oscar, tu nous as pas dit, je suis
un peu partagé parce que.
Bon, imagine, t'es actionnaire de Nintendo, actionnaire majoritaire, tu le gardes ou tu le vires?
Enfin voilà, c'est ça la question, quoi. Et moi. Moi, je l'aime assez quand même pour tout ce que j'ai cité sur la communication, sur
pour le côté déconne.
Pour le côté voilà. Moi,
c'est un grand déconneur, Iwata.
On n'a pas trop parlé aussi des Nintendo Direct.
On a un peu parlé au début quand même.
Mais on a vite fait, on n'est pas rentré vraiment dans le sujet. Moi, je trouve ça quand même bien ce qu'ils ont fait avec les Nintendo Direct.
Ça marche en tout cas.
Ça marche bien. Ouais.
Ça marche bien et je trouve ça intéressant comme manière de communiquer où au final, ça nous montre des images assez régulièrement, des images, des vidéos, quoi.
Et ça leur coûte pas grand chose en plus.
Ouais, ça leur coûte pas grand chose. Ça leur permet de contrôler totalement l'information telle qu'elle est distribuée directement au consommateur sans passer par la presse. C'est quand même pas con de leur part. Je pense que ça montre qu'il a quand même des bonnes idées pour communiquer, pour gérer une société de jeux vidéo de manière traditionnelle. Après, ce que je dis, c'est Faudrait vraiment faire durer l'émission beaucoup plus longtemps pour rentrer dans le sujet, parce que la question elle porte surtout sur l'avenir de l'industrie du jeu vidéo, et est-ce que Nintendo serait pas en train de rater le coche un peu sur comment les choses évoluent. Je pense que voilà, ils ont beaucoup foiré leur coup, notamment sur le online. Ils sont en train de bien se rattraper avec la Wii U, avec la 3DS, notamment avec les indépendants.
Ouais.
Et enfin, ils ont tendance à apprendre de leurs erreurs. J'aurais tendance à dire faut le garder, parce que je pense quand même qu'il a le potentiel d'apprendre de ses erreurs pour améliorer la situation. Et puis encore une fois, je trouve que ce qu'il a fait avec les Iwata demande, c'est formidable, quoi. Personne n'a jamais fait un mode de communication qui donne des détails aussi croustillants.
Mais je crois pas que de toute façon qu'il y ait dans l'industrie, en dehors de peut-être quelques guignols, enfin je veux dire au sens des studios ou des éditeurs très très peu importants, il n'y a pas beaucoup de PDG qui vont faire le con devant une caméra pendant 15 minutes tous les mois. Pour montrer ce qui se passe.
Voilà. Et puis c'est
quand même extraordinaire quand tu regardes ça. T'imagines le PDG de Total qui vient te dire qu'est-ce qu'il va y avoir à la pompe le mois prochain.
C'est ridicule. Ouais. Tu peux pas comparer une société comme Total avec Nintendo, quoi.
Tu peux un peu au niveau chiffre d'affaires.
Bah non, mais pas au niveau. C'est je veux dire, Total ils vendent de l'essence. Oui, Nintendo ils vendent des jeux vidéo.
Le PDG d'Universal, il vient pas te dire ce qui va sortir en salle avec une banane dans les mains et un mec déguisé en Luigi à côté de lui tous les mois.
Mais voilà, c'est ça. Et malgré tout, il a quand même ce côté sympathique. C'est comme on a dit, contrairement à tous les autres qui sont des financiers, lui c'est quand même un vrai passionné à la base qui voulait travailler dans le jeu vidéo quand il était étudiant, qui programmait sur sa calculette et tout. Et rien que ça, je trouve ça rassurant de savoir que pour une société aussi importante que Nintendo, on a quand même un vrai passionné de jeux vidéo à sa tête qui a été programmeur sur des jeux d'il y a 20-30 ans plutôt qu'un financier, parce que bon, si le remplace, ce sera probablement par un financier, quoi.
C'est pas dit, mais
bon, il y a de grandes changes.
Moi, c'est aussi quelque chose que je trouve vraiment important. Le fait que le boss ait un profil de développeur, ça évite déjà de prendre toutes des décisions permet d'éviter des décisions de merde. Et surtout, tu sais que le mec, il est pas juste là pour avaliser des décisions sans vraiment connaître le bazar, quoi. Il peut avoir un œil sur tout, et ça, c'est très bien.
Ouais, voilà, je pense qu'il a un côté vraiment passionné qui fait qu'il veut.
Il aurait jamais reporté Rayman Legends.
Reviens.
Non, mais voilà, il a une vision. On peut ne pas être d'accord avec sa vision, et je suis pas totalement d'accord avec sa vision des choses sur plein de points, mais au moins, il a cette vision là, et c'est la façon dont il voit les choses, comment il veut gérer la société, il s'y tient. À côté, regarde Activision, Kotick, c'est une sombre merde.
Disons le clairement.
Bah, si ça marche, en l'occurrence, ça marche, ça cartonne.
Oui, mais ça cartonne, pas pour les bonnes raisons.
Il est terrible ce mec, quoi. Enfin, c'est vraiment un financier qui en a rien à foutre du jeu vidéo, quoi.
C'est du business, hein.
C'est vraiment du business. Ouais. Et bon, je dis pas non plus que Iwata en a rien à foutre de la thune, hein. C'est évident, il gagne beaucoup d'argent, voilà. Mais je pense qu'il a vraiment ce côté, il veut faire que Nintendo marche bien, il veut faire que ça garde la philosophie Nintendo. De faire des consoles de jeux, de pas aller sur les iPhones, tout ça, et je trouve ça plutôt bien.
D'ailleurs, un petit chiffre sur les Nintendo Direct qui marche, je crois avoir lu, si j'ai bonne mémoire, dans les réponses aux actionnaires, que 70% des Nintendo Direct sont visualisés à partir d'une console Nintendo, donc que ce soit la Wii, la 3DS ou la Wii U. C'est quand même assez énorme, sachant que généralement on mate les vidéos sur une console de jeu.
L'une des meilleures statistiques, ça a été le Nintendo Direct qui était centré sur Animal Crossing, qu'ils avaient fait l'année dernière pour le Japon.
Ah bah là, ça a cartonné.
Qui avait fait plus de 1 million de vues sur YouTube, uniquement sur YouTube. Hein, je parle pas même du stream en direct, c'est uniquement la rediffusion sur YouTube, c'était plus d'un million de vues, quoi. Donc c'est assez énorme.
Ouais, en même temps, un Coréen en nœud papillon qui danse, ça fait un milliard, quoi. Donc, si tu veux...
Ouais, non, mais c'est pas pareil, enfin, tu vas pas comparer, je veux dire.
Non, mais c'était pour me moquer.
Ouais, vraiment.
Bon, messieurs, il va peut-être falloir qu'on.
J'ai une petite dernière question avant qu'on pose musicalise. Oscar, tu pourras peut-être nous éclairer là-dessus. Je sais qu'à un moment, Iwata avait annoncé qu'il baissait son salaire pour faire face aux difficultés, blablabla. Je sais pas si ça te dit quelque chose, ça devait être il y a à peu près 2 ans.
Ouais, non, bah, c'est
ça avait, ça avait été pas mal relayé. En fait, il baissait son salaire de base, je crois, mais son salaire de base par rapport au bonus, ça représentait genre 20% de sa rémunération. Il baissait le salaire de base de 5%, un truc un petit peu ridicule.
Ouais, bah, non, comme tous les PDG. Hein.
Ouais, voilà.
Ouais, comme beaucoup de PDG.
Oui, oui, non, mais il a baissé son salaire, ça c'est une chose, mais c'est aussi, il touche pas les bonus chaque année. Ouais. Après, ça c'est une philosophie très japonaise, hein. Ça se voit dans toutes les sociétés japonaises qui ne marchent mal. C'est pas du tout comme en France où.
Ils prennent encore plus de pognon avant tout le temps.
Exactement, au Japon c'est vraiment pas comme ça. C'est pareil pour Sony qui gagne pas beaucoup d'argent et qui a fait énormément de pertes avant, où les patrons ne touchent pas, ont renoncé à leur bonus. Enfin, il y a plein d'histoires comme ça. Au Japon c'est très courant. Ça, finalement, ça paraît exceptionnel pour nous français où on voit plein de boîtes qui marchent pas et des patrons qui continuent à toucher des bonus, mais là-bas c'est très normal comme démarche.
D'accord, ça c'est un éclairage relativement intéressant. Bon, on va pause musicalisée, messieurs,
parce
qu'il est temps de pause musicalisée, et nous allons écouter un petit morceau de monsieur Koji Kondo, qui s'intitule Astral Observatory, oui, mais je dis ce que je veux.
Très joli, très beau, Mario Galaxy 1
Non, Astral Observatory, c'est un morceau qui est extrait de la bande originale de Majora's Mask, réorchestré.
Ah oui,
rien à voir.
Ça n'a rien à voir, donc. Donc, carton rouge, Méduse, tu me feras 10 pompes.
De suite, j'y vais.
Voilà, de suite, tu y vas. Et donc, nous...
Je l'ai fait sur ma bite. Je l'ai fait sur ma bite, en fait.
Merde, putain. Non, c'est pas... Bon, allez, pause musicale, et on se retrouve dans un tout petit peu plus de 4 minutes 20. À tout à l'heure.
À tout.
Et voilà, nous voilà de retour, donc putain non.
Quoi non.
Il y en a qui disent putain hein.
C'est
non, non, pas maintenant.
J'ai dit un truc, mais...
C'est pas grave, on va s'en passer. On va se passer de ton commentaire sur le sujet.
Ouais.
Je sais pas de quoi tu voulais nous parler, mais on va parler de complètement autre chose, puisqu'on va parler d'un jeu. On l'a fait la dernière fois, c'était pas mal, donc on va recommencer. Là, le jeu, il s'agit de Nano Assault Neo sur Wii U et 3DS. Quelqu'un me confirme? C'est bien la même version sur 3DS.
C'est
non,
pas les mêmes.
Pas du tout.
C'est pas les mêmes. D'accord, non. Donc c'est pas les mêmes. Pardon.
C'est le même, genre, mais c'est pas le même.
Nano Assault EX, c'est sur 3DS. Et Nano D'accord. Assault Neo, c'est sur Wii U.
Alors et en fait.
Contre, donc les deux jeux ont rien à voir du tout.
C'est le même principe, grosso modo, mais comme on n'y a pas joué et qu'on s'en fout, on peut pas le dire.
D'accord. Donc la version 3DS, on sait pas, donc l'achetez pas.
Si, moi j'y ai joué un peu déjà au 3DS Nantes, il y a un mec qui l'a acheté. Et en fait, sur 3DS, c'est vu de derrière. C'est le même jeu, mais vu de derrière. C'est tout.
D'accord, ouais. Alors vu de derrière, va falloir que tu nous expliques ce que c'est comme jeu. Parce que moi, derrière, c'est... j'imagine déjà des choses.
C'est un shoot'em up.
D'accord, un shoot'em up derrière, si tu veux.
Nano Assault, c'est un shoot'em up de Shinen Multimedia qui ont notamment fait Nano Assault sur 3DS.
Merci.
Nanostré sur DS et des vieilleries sur GBA. C'est une petite PME allemande, Deutsche Qualität.
T'es en train de nous lire la page Wikipédia là, non?
Non, t'as vu, je suis en train de dire mon cerveau. C'est moi qui rédigeais la page Wikipédia, connard. Et donc ça se joue. Pour ceux qui connaissent Geometry Wars, c'est assez proche. Ça se joue au double stick aussi. Donc un stick, le stick gauche sert au déplacement, le stick droit simplement, on pousse sur le stick droit et ça tire dans les directions dans lesquelles on pousse. Un peu comme aux toilettes, quoi, finalement.
Ce serait bien. Alors, simulateur de toilette, est-ce que c'est le prochain jeu de Shinen Interactive? Avec le stick droit, tu pousses caca, et avec le stick gauche, tu essayes d'orienter le.
Tu dois viser un petit peu
tu dois viser un petit peu la cuvette pour éviter de laisser une trace de pneu sur le bord.
Une trace de freinage.
C'est intéressant comme concept.
Alors, la particularité du jeu, en fait, c'est que ça se déroule. Les environnements dans lesquels on affronte les ennemis, sont. On pourrait un petit peu prendre en analogie Mario Galaxy et ses planètes, puisque c'est aussi des environnements sphériques.
D'accord,
dont
d'accord, donc c'est un shoot'em up, façon Geometry Wars, c'est-à-dire un stick pour guider, un stick pour tirer, mais qui se passerait dans un environnement type Mario Galaxy, c'est-à-dire effectivement des planètes, des sphères,
c'est pas des planètes,
des environnements sphériques.
Pour faire plus simple, c'est comme sur le jeu, putain, j'ai oublié le nom, sur PS3.
Voilà, en plus il a oublié le nom.
C'est Super Stardust.
Non, mais si tu dis PS3, les gens ils vont pas comprendre.
C'est Super Stardust HD, je crois, un truc comme ça.
Voilà, exactement.
Voilà, moi j'ai déjà pas compris. Heureusement que j'ai joué à NanoSO. Donc ouais voilà, ça se joue, il y a pas tellement, il y a pas beaucoup, c'est vendu sur l'eShop à 10 euros, ça a été en promo récemment à, je sais pas, 5 euros,
voilà,
je crois.
C'est pour ça que je l'ai.
Et pareil.
D'accord, donc en fait vous êtes des gros rats.
On est des gros rapias. Absolument. Mais on achète des bons jeux à pas cher.
Ouais. Ça,
alors, en quoi est-ce que c'est bon? Donc j'ai un vaisseau, je me déplace, j'ai un tir, je me déplace sur un truc sphérique.
Ouais, il y a plusieurs particularités déjà.
Au sens patatoïde, je suppose, de temps en temps. Mais...
Ouais, mais carrément. Patatoïde avec l'excroissance OGM et tout ce que tu veux. Quoi, parce que c'est un petit peu.
Qu'est-ce
voilà.
que c'est que ce. Que... Alors, mais quel est le contexte de ce jeu?
On s'en fout, il n'y a pas de contexte.
Ouais, le contexte, par contre, ouais, j'ai pas compris. En fait,
c'est pas une histoire de bactéries.
Ouais, je crois que c'est des bactéries qui viennent sur des cellules. Et du coup, toi, t'as un petit vaisseau et il faut bousiller les bactéries.
Pour purifier la cellule.
Voilà, exactement.
C'est un peu c'est Il était une fois la vie, mais en jeu vidéo.
C'est,
ouais,
voilà,
ou
c'est
un
ça.
Peu Il était une fois l'immigration en France, tu vois.
Oh putain, l'enfoiré.
Il était un peu. Il était une fois Auschwitz. Mais.
Oh non.
Grosso modo.
Mais.
Non, ah, c'est allemand en même temps. C'est
on n'a jamais fait un Godwin.
Godwin, c'est fait.
Mais ouais, voilà. Et grosso
donc,
modo.
Prochain,
donc,
je te coupe le sifflet. Rappelle-toi, je suis administrateur du truc.
IRL ou.
Je viendrai jusque dans ta Belgique natale pour te botter les fesses.
Non, pas natale.
Non, pas natal, mais j'y arriverai quand même pour te les fesses.
Et donc en fait, ouais, c'est des bactéries, il faut les éliminer, et on doit en éliminer 80%, puis rejoindre la sortie, et voilà, donc plus tu fais ça bien, vite et sans mourir, plus ton score est haut, t'as un système de scoring en ligne, qui est assez sympa aussi.
D'accord.
Et ouais. Tu as toutes sortes d'ennemis, t'as des poulpes dedans, ça c'est génial les poulpes. T'as des poulpes qui balancent des bombes.
T'as des petits oursins aussi, des petits oursins.
Ouais,
rouges,
des petits oursins. Alors quand
d'accord,
tu tires dessus, il bouge légèrement, ces connards.
D'accord, mais comment il fonctionne le système de scoring? C'est juste t'élimines des ennemis ou t'as une espèce de
non,
système de combo?
Il y a des combos, ouais. En fait, plus tu butes les ennemis sans t'arrêter, plus les combos augmentent. T'as
système
ça,
de
t'as...
combo, quoi. Ouais. Et alors tu peux augmenter le système de combo, ça s'arrête à 5 combos, mais tu peux l'augmenter à 9 en achetant un item entre deux niveaux, parce que tu peux aussi améliorer ton véhicule.
Acheter un DLC?
Non, tu
ramasses
on se pose des questions à notre époque. Hein.
C'est vrai.
Ouais, non, c'est vrai.
Ouais, c'est... Non, mais c'est vrai que les mecs,
surtout le jeu à 5 euros, t'imagines.
Ils sont capables de te vendre une skin pour 30 euros, donc si tu veux.
Bah, t'as pas une histoire de Tetris où ils te vendent des éléments du jeu là sur iPhone.
Si,
là,
bon,
enfin, bref.
Ouais, alors, si pour 1 euro tu as le décor, pour 2 euros tu as la barre horizontale.
Voilà, exactement, mais c'est ça, tu rigoles.
Non, tu te fous de ma gueule.
Enfin, je sais plus, mais en gros, je crois que tu payes 3 euros pour avoir les barres horizontales à la suite. Enfin, bref.
Donc, le truc vraiment cool sur Nano Asso, c'est que le rythme est quand même, je veux dire, il y a un bon rythme dedans, tu peux vite perdre tes vies si tu ne prends garde.
Oh,
confirmeur, je sais pas si tu l'as fini, Fro.
Si, je l'ai fini et j'ai eu un peu de mal en fait sur
le dernier.
Troisième monde. Enfin, c'est découpé, t'as Epsilon, Zeta,
Sigma,
je sais plus trop quoi.
Attends, il y a que 4 mondes, ça veut dire quoi?
Justement,
alors vas-y.
Il y a 4 mondes et dans chaque monde il y a 4 niveaux.
D'accord.
Et le quatrième c'est tout le temps un boss.
D'accord, ouais, mais un boss, c'est quoi un boss dans ce jeu-là, du coup?
C'est un gros monstre qu'il faut bousiller, c'est tout.
C'est un gros monstre
spécial.
Sur une bactérie, enfin sur une cellule,
ouais,
mais
ouais,
genre il est énorme par rapport à la cellule, il faut le bousiller.
Et puis,
ouais, ou alors il y a plusieurs points de contact, il est sur ses pattes, il a plusieurs... Enfin, tu vois, il faut viser d'abord une patte, puis l'autre, etc.
C'est
il faut éviter
basique.
Des...
Les boss sont hyper basiques, tu les fais sans perdre, tu perds beaucoup plus dans les niveaux, parce que c'est t'as des boulettes partout, enfin c'est pas non plus un manic shooter, mais...
En fait, c'est sphérique, ce qui est pas mal, c'est que le tir de ton vaisseau, en fait, il subit aussi un peu la gravité. Du coup, tu peux tirer à un endroit. Bon, évidemment, il a une portée limitée. Tu tires pas au bout de la cellule et ton tir, il fait pas 3 fois le tour avant de s'arrêter. Mais tu vois, si t'es un ennemi au-delà d'un recoin, on va dire, enfin, au-delà d'une colline, par exemple, tu peux tirer en direction, ça va suivre le terrain.
Peu...
Et à contrariori, les ennemis qui tirent, tu dois aussi faire attention à ce qui risque de venir d'un recoin.
Donc on revient sur un principe finalement assez... Enfin, on fait le parallèle un petit peu avec Mario Galaxy, on revient sur un principe un peu similaire où dans Mario Galaxy, quand tu lâchais je sais plus quel item, il avait tendance à faire un peu le tour du...
Ouais, c'est un peu ça.
Le tour de la planète sur laquelle t'étais.
Ouais, voilà, voilà, voilà.
C'est un peu le même truc. Ah. Et puis en via le gamepad, parce que quand même il sert quand même à quelque chose. tu peux jouer, tu peux jouer directement sur le gamepad comme si tu jouais une console portable. Donc ça,
mais non, mais quel jeu ne propose pas ça?
Voilà, aucun intérêt. Hein, en plus, il est super joli. En plus,
si, il y en a qui proposent pas ça.
Ouais, oui, non, mais à part, Zombie U.
Et tu
Lego City.
Je crois que tu peux. Tu peux régler les certains trucs, genre t'as des petits satellites autour de ton vaisseau, et tu peux régler, genre ouais, ça va tirer tout que à gauche ou que à droite.
En fait,
ou,
tu peux tout régler. De base, ton vaisseau il a un seul tir, donc tu tires en ligne droite, quoi, et de temps en temps tu peux ramasser des petits bonus qui sont des satellites supplémentaires.
Tu peux
avoir
les
en tout 5 tirs, ou tu peux les acheter entre deux niveaux aussi.
En DLC donc,
non, gratuit.
Gratuit, dans la boutique du jeu. Et donc tu peux les placer tout autour de ton vaisseau, et en plus définir leur orientation, donc tu peux tirer dans 4 directions en même temps, ou bien focaliser tes tirs sur un endroit. C'est assez pratique, pratique en fait, sympa.
Il n'y a, notamment... a qu'un truc qui manque pour moi, c'est le... y a pas de mode en ligne. T'as que le mode
t'as
de
un mode t'as un coop local, mais t'as pas de mode
voilà,
de jeu.
T'as pas de
ah, t'as quand même un coop
ligne.
Local. C'est quoi, ouais. C'est un coop en split screen où on peut jouer un joueur sur le gamepad, un joueur non. sur la télé.
C'est, voilà, c'est ça.
Avec un joueur sur le gamepad, un joueur sur la télé.
Ouais, ouais. Avec un
ah, putain,
combo. Ouais, mais t'as un pauvre combo pourri Wiimote Nunchuk. J'avoue que j'ai pas testé. Et apparemment, c'est pas génial parce qu'en fait, tu
Tu peux brancher le pad classique en fait.
Ouais, mais sinon avec le Nunchuk, tu comment dire, tu diriges ton vaisseau et tu vises directement avec la Wiimote.
Mais t'as pas un truc avec le
ah
Wii,
oui,
Wii
c'est
Pro Controller
le... ouais, si, ou, je sais plus.
Je
crois
qu'il
y a le Wii Pro Controller. En fait, il n'y a pas la manette classique. C'est effectivement le pointeur de la souris qui sert, je crois. Je me souviens plus. J'ai essayé avec Medusette, là. Alors, le truc marrant, c'est que celui qui joue sur la télé, il voit la gueule de l'autre, puisque l'autre est filmé par le gamepad, en fait.
Ouais.
Parce que dans l'action...
Ouais,
effectivement, ça fait peur à Medusette de me voir sur la télé au début. Dans l'action, vu que ça... tire parfois de partout, c'est pas évident de se repérer, c'est quand même un chouette moyen.
La photo est un chouette moyen de se repérer?
Non, je veux dire d'avoir la gueule tu peux confondre ton pote, tu vois, enfin ton coéquipier avec les autres amis tellement il y a du bordel, quoi.
Parce que genre il y a du
Friendly
Fire, enfin tu peux tirer sur ton pote.
Non, il n'y a pas de Friendly Fire, mais ça permet de savoir que s'il y a des boules qui viennent d'une direction, c'est peut-être pas un ennemi, mais c'est juste ton pote, quoi. Donc t'es pas
paniquer. D'accord. OK, je vois ce que tu veux dire. D'accord.
De temps en temps, tu peux aussi choper des... Enfin, t'as les lettres qui forment le mot bonus qui traînent parfois. Quand tu... Enfin, elles apparaissent plus souvent quand tu butes vraiment bien les ennemis en enchaînant, donc en grimpant en combo. Et suite à ça, t'as un niveau qui pourrait faire penser à un elf pipe ou un tuyau. Ou un tuyau
de... un anus, en fait, mais c'est un peu ça.
Ou un tuyau de F0. Un tuyau, c'est aussi un anus.
Ah ouais.
Un tuyau de F0, tu dois esquiver des objets, ramasser d'autres. Voilà.
Et c'est pas évident, d'ailleurs, ça, le...
Non, parce que ça accélère de plus en plus. Ouais, au début, c'est assez
bonus,
lent, puis ça accélère. Donc, si tu tiens plus de 30 secondes, t'es un king, quoi.
Voilà, au bout de 20 secondes, t'es mort.
D'accord, donc est-ce que
ouais,
c'est
je
un...
Fait...
Et
un
sinon,
c'est un jeu que... Alors, vas-y, t'as un truc à rajouter, vas-y.
Et sinon, durée de vie, 1h30.
Non,
après.
Ouais. 16
ah bah,
10,
tu le termines super 6, rapidement. C'est...
Ouais. Mais t'y reviens volontiers parce que tu débranches ton cerveau, tu joues et puis voilà. Quoi.
Ouais, et puis t'as du scoring. Si t'aimes bien le scoring, faut l'acheter. Si t'es pas à fond dans le scoring, 1h30 et c'est fini.
D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il
préfère prévenir.
Enfin, par le mode solo, il faut enchaîner les 4 mondes, etc. T'as aussi un mode arcade où tu choisis ton niveau et un mode survival.
Ouais.
Là, c'est un niveau aléatoire, enfin jusqu'à ce que tu crèves. C'est marrant parce que dans le mode arcade, en fait, je vais pas raconter le dernier boss, mais grosso modo, c'est celui qui demande une plus grande précision de tir. En fait, dans le mode arcade, il faut pas mourir, faire un bon score, il faut pas mourir. En plus de ça, il faut avoir une précision de tir énorme. Et il y a moyen de faire 100% de précision de tir sur le tout dernier boss. C'est marrant de voir que quand tu regardes les rankings online, les types qui sont tous égalité premier avec le même score parce qu'ils ont fait 100% de précision, c'est tous des japonais, quoi. Tu dis, tu vois, t'imagines la rigueur samouraï, machin, etc., tu vois. Et c'est étonnant parce que le jeu est sorti au Japon il y a pas 3 mois, quoi. Alors qu'il est arrivé ici un peu plus tôt, je pense.
Ouais, mais comme d'habitude, les Japonais, ils te briquent toutes les premières places parce que...
Imagine ce que ça va être quand Rayman Legend va sortir au Japon. Enfin,
va se faire massacrer, hein.
Ouais, je sais pas quand est-ce qu'il est prévu pour quand, on sait
mais
pas.
Il est pas prévu, officiellement.
Ouais, comme ça, au moins, ça règle le problème.
Ouais, un petit peu de...
Au niveau de médaille,
alors.
Au niveau de la date de Rayman, faut pas...
D'accord.
On va en parler, sujet sensible.
Bon bah donc
grosso modo si vous avez aimé Geometry Wars 2 sur 360 ou
sur DS,
aimez bien simplement les jeux, il faut un petit peu se débrancher le cerveau avec un peu de challenge, franchement Nanoasso c'est cool.
Ouais, c'est bon. 10 balles.
Même pour 10 euros, je veux dire, ça vaut le coup de le choper.
Enfin, donc même pour 10 euros, 1h30, c'est pas plus rentable qu'une séance de ciné, mais si t'aimes le scoring, il y a moyen d'y revenir, quoi.
Ouais, voilà.
Voilà.
D'accord.
Ben, c'est une chouette expérience, quand même gamer.
Et il faut aimer la musique électronique aussi.
Oui, c'est vraiment de l'électro. Enfin, c'est du techno-morchi, quoi.
Ouais, c'est direct. Ah ouais, ça envoie direct.
Tout ce que j'aime.
Alors, il y a des mauvais morceaux, il y en a quelques-uns un petit peu moins dégueulasses.
Ah, mais... pas trop mal, ça passe, quoi.
Il y en a quand même certains qui sont insupportables. Je trouve.
C'est bon,
je trouve. Mais voilà, quoi.
D'accord.
Sympathique découverte et sympathique surprise.
Sympathique surprise, donc ouais. Un jeu qu'on peut recommander.
Pour un studio
euros,
allemand, les Allemands ils font pas de jeux vidéo, quoi. Ils font des voitures et tout.
Ah, les Allemands ils font des trucs quand même.
Surtout pour un jeu qu'on ne retrouve pas autre part. Parce qu'au final, sur eShop, il y a quand même beaucoup de jeux qu'on trouve sur Steam à bien moins cher. Genre Trine et Trine 2, Trine 2 je crois. Donc ouais. Pour une exclu, c'est quand même vraiment pas mal.
D'accord. D'accord. Bon, ben messieurs, il va être l'heure de se quitter, du coup, sur ces bons mots. Est-ce que vous avez éventuellement un mot de la fin? Alors, la traduction du mot de la fin, on a failli s'arrêter il y a 2 semaines, après un petit dérapage de ma part, hein, je vous prie de m'excuser, ça n'arrivera plus. Oscar, le mot de la fin?
De... anencéphalie.
Encore sortir le Google.
Je ne sais pas ce comment. Que c'est si rare qu'il l'a proposé, c'est pas moi.
C'est pas grave. Frosties, le mot de la fin.
Ivers, c'est le seul truc que j'ai devant moi.
Méduse, le mot de la fin.
Ce sera l'anecdote de la fin. Que vous n'avez pas entendu, c'est que. Après le tour de table de l'actu, il y a Oscar qui nous dit. Putain les mecs, heureusement que c'est la pause, aidez-moi, j'ai un gros écho dans mon casque, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait de l'écho? En fait, le mec, il était en train d'écouter de la radio, la radio dojo en même temps qu'il l'animait, donc il n'arrêtait pas d'entendre tout en décalé.
Sa propre voix.
Bravo,
je dément ses propos.
Voilà, moi pour le mot de la fin, je choisir bétonnière. Voilà, c'est bien ça, bétonnière. Ça n'a rien à voir. Allez les gens, on va s'arrêter là. Le podcast, normalement, on le retrouve jeudi ou vendredi en fonction du temps que j'aurai pour faire le montage. Et nous, on se retrouve pour le prochain direct mardi dans 2 semaines. Ce sera juste avant le 3, donc on va peut-être avoir quelques petites choses intéressantes à raconter.
Absolument. Voilà.
Au revoir tout le monde.
Salut.
Ciao.